Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. Il est 18h passé de 15 minutes à Niamey. C'est l'heure du forum de Studio Kalangou, votre rendez-vous quotidien d'émission radiophonique, de débat et de dialogue sur des questions d'actualité ou de société que vous vous posez habituellement. Nos programmes sont diffusés, c'est un rappel, par 47 radios partenaires couvrant toutes les 8 régions du Niger et 6 télévisions partenaires, dont 5 à Niamey et 1 à Zander. Aujourd'hui, nous allons parler du thème « 30 ans de démocratie au Niger, quel bilan ?». Le jeudi 29 juillet 2021, c'était en effet la journée nationale de la démocratie au Niger, une date historique qui rappelle l'ouverture de la conférence nationale souveraine en juillet 1991 à Niamey. Un peu plus d'un millier de représentants des couches socio-professionnelles du Niger avaient participé aux travaux qui ont duré 3 mois et 5 jours pour aboutir principalement au multipartisme et à la libéralisation du secteur de l'information et de la communication au Niger. Dans la première partie de ce forum, nous parlerons tout d'abord du contexte socio-économique et politique dans lequel est intervenue cette conférence nationale souveraine. Nous verrons ensuite les grands acquis de cette conférence nationale souveraine et enfin la situation actuelle de la démocratie au Niger et les perspectives pour la rendre plus forte. Pour en débattre, nous avons le plaisir de recevoir comme invité ce soir Moussoulmi Malam Sita. Il est le président de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, AN2C. Maman Sani Adamou, il est acteur politique de l'opposition. Sabo Seydou, ancien rapporteur général de la Conférence nationale souveraine. Et enfin, Adamou Idé, il est acteur politique de la majorité au pouvoir. À la modération de ce forum, je suis Michel Dégé. Une fois de plus, bonsoir. Si vous venez de nous rejoindre pour ce forum de Studio Kalangou qui a pour thème aujourd'hui 30 ans de démocratie au Niger, quel bilan? D'abord, dans quel contexte socio-économique et politique est intervenue cette conférence nationale souveraine au Niger? Monsieur Sabo Seydou, vous qui avez été d'ailleurs, il faut le préciser, le rapporteur général de la dite conférence.
Merci beaucoup. Bon, la conférence nationale, elle est survenue dans un contexte où, premièrement, il y avait la mise en place de la Deuxième République.
Avec Ali Chebou comme président.
Avec Ali Chebou comme président. Ça n'allait pas, disons, de soi, ou ça n'allait pas comme sur des roulettes, même cette mise en place. Maintenant, il y a le contexte, disons, si on peut parler économique, des plans d'ajustement structurel. Il y a le contexte.
Que prévoyait justement le PAS, le plan d'ajustement structurel qui avait justement été contesté à l'époque par des masses populaires?
Bon, le point le plus saillant pour l'époque, c'était sur la question de l'éducation.
La question de l'éducation 3.
Comment ça s'appelle? Le projet éducation 3, où il est question de double vacation, où il s'agissait des réductions des ressources allouées à l'éducation. Il s'est agi de mettre, disons, au devant des questions d'éducation, les questions d'économie et surtout d'économie financière.
C'était à la demande des partenaires tels que la Banque mondiale, le FMI.
C'est à la demande des partenaires financiers, la Banque mondiale, le FMI, mais avec l'acceptation
des autorités
en place. Donc, il y avait ce contexte-là. Maintenant, il y a un contexte où les forces, notamment les forces syndicales, que ce soit les travailleurs ou les scolaires, ont pris une certaine distance par rapport au pouvoir et, disons, représentaient déjà des forces agissantes. Et puis maintenant, deux événements sont venus pour, en quelque sorte, accélérer le processus. Le premier, c'était le 9 février.
Où il y a eu la mort de trois étudiants de l'université de Niamey.
À l'université de Niamey. Le deuxième, c'était les affaires de Tchintabraden. Là
bien
où
sûr.
Il y a eu des gens, disons, qui ont été assassinés par les éléments de l'armée. Voilà un peu, grosso modo, le contexte.
Les éléments déclencheurs ici, c'est donc
c'est les deux le 9 février et Tchintabaraden.
La situation qu'on avait vécue à Tchintabaraden, à l'époque, c'était un peu avant la conférence, Moussoumi Malansita. Quelle analyse par rapport à tous ces événements qui ont conduit à la tenue justement de cette conférence nationale souveraine qui avait ouvert ses travaux le 29 juillet 1991?
Bon, merci Michel pour en tout cas cette opportunité que vous nous donnez, surtout d'être à côté des tontons, nos aînés qui ont été les acteurs centraux de la conférence nationale. Donc je pense que pour nous c'est vraiment une chance. Et je pense à tout égard, il faut reconnaître l'état d'esprit et de sagesse des autorités d'alors qui au moins étaient des hommes qui avaient une volonté patriotique, qui aimaient encore plus le Niger et qui ont évité le Niger d'un affrontement inutile entre eux parce qu'ils ont le pouvoir et qu'ils avaient peut-être en son temps la possibilité de réprimer, mais d'écouter aussi la masse laborieuse, donc que vous qualifiez de force vive de la nation, pour aller, comme il l'avait dit en son temps le général Idi Chebou, quand il dit dans tous les cas c'est le courant de l'histoire, nul ne peut aller contre le courant de l'histoire et c'est l'histoire qui jugera. Si aujourd'hui nous qui sommes là, qu'on qualifie des gens qui ne sont pas de nature à garantir les aspirations du plus grand nombre à travers les politiques publiques actuelles, et maintenant demain, ceux qui pensent que quand ils seront au pouvoir, ils feront mieux qu'eux. Et maintenant, je pense que le temps, 30 ans, nous permet aujourd'hui d'apprécier, de juger véritablement entre ces deux acteurs.
C'est vrai, il faut le souligner. Pour qu'on ait cette conférence, il a fallu qu'elle soit acceptée par le chef de l'État de l'époque, qui était donc Ali Seybou, qui a prôné ce qu'on a appelé la décrispation. Et c'était donc après la mort de l'ancien chef de l'État, Seynou Kounté, qui avait régné pendant pratiquement 15 ans après un coup d'État intervenu le 15 avril 1974. C'est bien cela. Il faut aussi rappeler donc que cette conférence nationale souveraine s'est tenue à la suite de la 16e conférence des chefs d'État d'Afrique et de la France qui a eu lieu donc le 20 juin 1990. 37 pays africains, dont le Niger, étaient présents à ce sommet France-Afrique. À cette occasion, le président français de l'époque, François Mitterrand, avait annoncé que la France a décidé de conditionner son aide au développement en faveur des États africains par l'acceptation de la démocratie. Comme dans un mouvement d'ensemble, plusieurs pays francophones d'Afrique ont alors tenu leur conférence nationale presque au même moment. Alors, cette démocratie a-t-elle été véritablement l'expression de la volonté du peuple nigérien ou plutôt une exigence de l'ancien colonisateur Mamman Sani Adamou, acteur politique de l'opposition mais également altermondialiste?
Oui, je voudrais préciser que de l'opposition parlementaire, parce que c'est
oui,
seulement
c'est vrai, vous ne reconnaissez pas le président de la République, c'est ça, au niveau de l'opposition?
Voilà.
Alors, vous avez le droit de faire la précision, merci.
Je vous remercie. Je pense qu'il y a les deux exigences, en fait. Ce qui s'est passé en 90 est le résultat d'une contestation à l'intérieur. Parce que un peu partout en Afrique, ce qu'on appelle le modèle développementiste, là, c'est-à-dire le projet politique mis en place depuis 60, de se développer dans l'interdépendance, c'est-à-dire que sous la dépendance du colon, ce modèle a échoué. Et donc, nos pays sont rentrés en crise. Et au Niger, cette crise s'est manifestée par des mesures drastiques d'austérité qu'on a connues sous le nom de conjoncture à partir de 83-84, mais qui se sont poursuivies et qui ont été beaucoup ressentis dans le, comme l'a dit Sabo, qui sont ressentis beaucoup plus durement dans le secteur de l'éducation. Mais pas seulement dans le secteur de l'éducation, tous les secteurs sociaux en ont pâti. Et on a commencé pour la première fois à le ressentir même au niveau des travailleurs, parce qu'il y a beaucoup de possibilités, de facilités qu'il y avait, qui ont commencé à disparaître. Mm-hmm. Donc l'État commençait à prendre des mesures de restructuration sous la houlette du FMI et de la Banque mondiale. Alors, ça crée des conditions de contestation. Et c'est principalement les scolaires et les travailleurs, les syndicats qui étaient les contestataires. Mm-hmm. Parce qu'on était dans le cadre des régimes de parti unique. Une première république et régime d'exception sous la deuxième république, sous l'état d'exception, et la deuxième république qui elle-même aussi était la société de développement, c'était quand même un monolithisme politique. Alors, donc il y avait une contestation des couches urbaines, des travailleurs, et de l'autre côté, il y avait un environnement international marqué par l'effondrement du camp socialiste, de l'URSS. Et les pays du camp occidental, vainqueurs entre guillemets, se sont dit maintenant ils vont imposer au reste du monde leur logique. Un peu partout, donc, c'est le libéralisme. Il faut libéraliser. On vous dit que si vous avez des problèmes, c'est parce que vous n'avez pas libéralisé la vie politique. Il faut libéraliser l'économie. Ça a commencé déjà avant 90, avec 83. Les programmes
d'ajustement. Il faut rappeler que pendant cette période, on a connu des périodes difficiles, notamment avec la sécheresse.
Oui, bien sûr. Tout ceci, ça a conforté, ça a compliqué singulièrement la situation des régimes antérieurs. Mais c'est principalement l'effondrement de l'Union soviétique à l'extérieur qui a amené les pays capitalistes vainqueurs à vouloir maintenant imposer au reste du monde le cours néolibéral. Ça, c'est extrêmement important. Et à l'intérieur, la contestation par la jeunesse scolaire, par les syndicats, des mesures d'austérité prises par le régime à l'issue de l'échec de ce modèle développementiste, ce modèle de vouloir se développer sous la tutelle de l'Occident, qui a échoué pendant 20 ans de règne.
On a parlé à l'instant du programme d'ajustement structurel, mais aussi le projet éducation 3.
Oui, les
mais finalement, s'il faut résumer, est-ce qu'il faut dire que l'avènement de la démocratie au Niger a été une volonté du peuple nigérien ou plutôt celle du colonisateur,
c'est-à-dire
la France?
Des deux. Il y a les deux aspects. Même si, on va revenir plus tard, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui, on peut comprendre que c'est la volonté de l'extérieur qui a primé sur celle du peuple nigérien, parce que tout ce qui est en train de se faire renforce la dépendance du pays, renforce le poids, l'emprise de l'extérieur sur nous. Alors que l'objectif, c'était de dire, on en a assez de ces mesures d'austérité, on veut la démocratie parce qu'on pense que ça va permettre de respirer et de nous prendre en charge.
En disant cela, est-ce qu'on, s'il faut répondre à la question, est-ce que le Niger a alors bien fait en choisissant d'aller vers la démocratie?
C'est pas qu'il a bien fait. C'est très difficile de raisonner comme ça. C'est-à-dire qu'il y a ce que les rapports de force et la situation autorisent. On ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire que s'il y avait les conditions pour faire autre chose, c'est sûr que c'est autre chose qui se serait passé. Mais dans le contexte des pays africains de l'époque, le passage par la conférence nationale signifiait qu'il y a un type de rapport de force qui ne permettait pas d'aller plus loin. C'est-à-dire que aucune force structurée n'est en mesure de renverser ces régimes monolithiques. Et de l'autre côté, il y a un environnement international qui est favorable. Donc, les choses se sont passées de cette façon. Dans d'autres circonstances, ça se pourrait passer différemment.
Adam Ouidé, acteur politique de la majorité au pouvoir, il a parlé de l'environnement international qui était donc favorable. Est-ce votre point de vue?
Merci, M. Michel. D'abord, je voudrais dire merci à nous tous ici.
Merci.
Mais
à
personnellement,
vous
moi, je voudrais relativiser. Parce qu'objectivement, la démocratie au Niger ne date pas de la conférence nationale uniquement.
Officiellement, c'est la date.
En 1960, quand le Niger était indépendant, il était parti sous l'aspiration de la démocratie, avec le multipartisme, avec plusieurs partis politiques. Mais, chemin faisant, il faut reconnaître que la démocratie a pris des coups. Donc, il y avait eu peut-être une interruption dans la gestion. de la démocratie.
Vous savez, certains avaient quitté même le territoire national.
Il faut reconnaître ce qui s'est passé entre le RDA et le Sawaba, le tiraillement qu'il y a eu. Donc, vraiment, c'est ce qui a fait que, en 1960, de 1960 à une certaine période, la démocratie a pris un sérieux coup. Maintenant, chemin faisant, il y a eu des coups, coups d'État, mais l'élément, le déclic principal de la démocratie, c'était le sommet de la Bolle, où Mitterrand...
Le 20 juin.
Bien sûr, où Mitterrand avait dit aux chefs d'État africains, réunis autour de lui, que l'aide au développement sera assujettie à la démocratie. Et c'est dès cet instant-là que maintenant, il y a eu le branle-bas au niveau des chefs d'État. Et vous savez que cela a accouché des différentes conférences nationales. En tout cas, personnellement, ma lecture, c'était ça. À l'époque, certes, il y avait eu ces mouvements citoyens, ces mouvements de syndicalistes, tout à fait. Mais il faut reconnaître qu'à l'époque, le chef de l'État qui était, n'est-ce pas, au pouvoir,
Ali Saïbou,
avait prôné pour la décrispation. Alors, je pense que cette décrispation a favorisé beaucoup l'émergence de la démocratie au Niger. Donc, c'est après cela que maintenant, il y a eu cette conférence nationale. Le grand frère aussi, Ama gauche.
Il est venu en tant qu'acteur politique.
Voilà, a été un grand acteur.
Bien sûr.
Pendant la conférence nationale. Ouais. Et c'est pourquoi nous comprenons ces explications. Donc, aujourd'hui, il faut reconnaître que la démocratie est née après le sommet de la Bolle et avec la décrispation de Ali Saïbou.
Donc, ça a été un souhait exprimé ça a été à deux souhait... niveaux, au Niger et en France, avec François Mitterrand.
Oui, si mais on vous comprend justement.
Bien. Merci à vous, on vous a bien compris. Parlons à présent des grands acquis de cette conférence nationale souveraine et de la situation actuelle de cette démocratie au Niger. Quels sont, à votre avis, les résultats de cette conférence et quels sont ses acquis aujourd'hui? Monsieur Sabo Seydou, rapporteur général de la conférence nationale souveraine.
Merci beaucoup. Quand on parle des acquis de la conférence nationale, moi je pense qu'il faut les situer, disons, à plusieurs niveaux. Le premier nouveau, moi, c'est, je dirais, l'état d'esprit que ça a installé. Quand je parle d'état d'esprit, je parle notamment de l'acquis sur la liberté d'expression et d'opinion. C'est le, avec, pour conséquence matérielle, la pluralité des médias. Qui s'en est suivi, quoi. Ça, c'est un.
Donc, la liberté d'expression.
La liberté d'expression, et de presse. D'opinion, de presse et d'association.
Bien sûr, la parce liberté si voulez, d'association également.
Parce que si vous voulez, les principales caractéristiques des régimes d'exception, c'est d'une part une répression féroce contre la liberté d'expression et d'opinion et le refus à ce que. Les gens s'organisent comme ils l'entendent.
L'USN n'avait d'ailleurs pas une reconnaissance officielle. Et il fallait lutter d'ailleurs. Voilà. Et c'est à cause de ça a été pris en compte à la conférence justement.
L'époque donc de la conférence à aujourd'hui, vous avez le nombre d'associations qui naissent, qui sont nées. Deuxième acquis, bon, c'est un acquis en termes, je dirais, en termes institutionnels. L'institution d'abord du multipartisme et puis du régime semi-présidentiel et d'un code électoral ayant privilégié le mode consistant, disons, à la proportionnelle. Ça, c'est un acquis. Maintenant, il y a un autre acquis qui lui est diffus, qui est l'acquis que, je dirais, la liberté. Disons, la libération des énergies.
C'est-à-dire
c'est un gros mot. Un gros mot, c'est-à-dire dans tous les domaines. Disons, la conférence, je dirais, a favorisé l'expression de plusieurs modes, de plusieurs formes d'organisation, tant dans la production, les échanges, etc., etc. C'est-à-dire, c'était pas comme auparavant où il y a, par exemple, un seul modèle de ceci ou un seul modèle de cela. La pluralité est acceptée, même dans la production, etc. Je ne sais pas si je m'exprime assez bien.
Les gens sont devenus plus libres.
Plus libre
dans ce qu'ils font.
Je n'ai pas voulu employer le terme de libéralisation. J'ai employé le terme libération des énergies.
Bien sûr.
Voilà. D'accord. Donc voilà.
Est-ce qu'il y a d'autres acquis qui méritent d'être soulignés?
Je dis c'est de plusieurs dans plusieurs domaines. Par exemple, un exemple, un acquis ou disons quelque chose qui est devenu concret. J'ai dit avant la conférence, quand l'État a besoin de prendre des terres, ben les prenez. Vous n'êtes pas dédommagé. C'est avec la conférence, notamment dans les villes.
Les libertés des citoyens n'étaient pas donc respectées.
Non, les biens même des citoyens n'étaient pas. C'est-à-dire, tant que, dès qu'il y a la volonté de l'État ou des pouvoirs publics, par exemple, de s'accaparer de certaines terres pour ceci ou pour cela, ils les prenaient. Il n'y a pas question de dédommager. Par exemple, la ville de Niamey, c'était comme ça avant.
Alors que ce n'est plus le cas.
Ce n'est plus le cas maintenant.
Merci, Moussoumi Malan Sita, acteur de la société civile. Avec cette conférence, nous avons donc eu la chance d'avoir cette démocratie qui est actuelle en ce moment. Mais pour vous, la démocratie, c'est quoi ? D'abord,
je pense que l'avantage fondamental de l'esprit de la démocratie, c'est par rapport au mode de dévolution du pouvoir. Parce que dans tous les pays démocratiques, ce qu'ils recherchaient, c'est que les communautés vivent en symbiose, en harmonie, en synergie, au-delà de leur diversité, et que chaque fois, ce n'est pas parce qu'on est le plus fort, le plus beau et le plus riche qu'on doit s'auto-proclamer être le dirigeant de cette communauté.
Il faut que la personne soit élue par le peuple.
Vous voyez bien que ça se repose sur une forme de consensus, donc de contrat social. Que tous les acteurs parties prenantes acceptent qu'un tel ou telle personne sont habilités à être devant nous pour porter nos aspirations, pour nous représenter dans toutes nos valeurs. Et je pense que c'est ça l'avantage fondamental qui est recherché.
À travers la démocratie.
La démocratie.
Merci, Moussoumi Malan Sita. Maman Sani Ademo, acteur politique de l'opposition, altermondialiste. Oui. Selon vous, quelle est la situation actuelle de cette démocratie
Niger? Avant de parler de la situation actuelle, j'ai insisté sur un aspect, c'est-à-dire que nous étions dans une crise. Il y a un État qui était presque à terre à cause des difficultés économiques.
Bien sûr.
Il y a un vent qui a soufflé à l'extérieur, qui a amené des changements. Maintenant, comment nous avons vécu ces changements? Et c'est ça, je voulais mettre l'accent sur le fait que les acteurs de la conférence nationale qui revendiquaient la démocratisation rejetaient avant tout les conséquences, les effets des programmes d'ajustement structurel. Or, les programmes d'ajustement structurel sont constitutifs de la libéralisation économique. Voilà le problème. On a eu, à partir de la conférence nationale, la libéralisation politique. C'est-à-dire, on a introduit ce qu'on appelle la démocratie représentative. Bon, ce mot-là est lui-même une source de problème. C'est-à-dire que ce qu'on appelle démocratie, c'est ce qu'on a vu comme modèle occidental. On ne sait rien de son histoire. Parce que le mot démocratie, étymologiquement, ça veut dire le pouvoir des classes inférieures, des pauvres.
On dit que démocratie est composée de deux parties, démos et kratos. Et là, ça veut dire le pouvoir du peuple tel que ça a été défini par Abraham Lincoln, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple.
Or, même dans les sociétés occidentales, ce n'était pas évident. Même après les révolutions, ils ne voulaient pas ce mode. Donc, ce mode de la démocratie s'est imposé progressivement. Prenez la constitution américaine, elle est foncièrement antidémocratique. Le peuple n'est pas
dans certaines dispositions.
Le peuple n'est pas
par exemple
parce que ils veulent qu'il y ait la représentation à partir du fait que l'idée que le peuple est incapable de discernement. Le peuple n'est pas mûr pour discerner le bien et le mal. Il faut que ce soit des individus qui par ils appellent ça l'aristocratie naturelle, Thomas Jefferson, etc. Vous trouverez tous ces développements là chez eux.
À l'heure actuelle, même aux États-Unis, c'est les grands électeurs au niveau
du processus électoral. Tout est mis en œuvre pour empêcher l'expression du vote populaire.
C'est-à-dire directement exprimé par les citoyens.
Il y a eu l'insuffisance, si vous voulez, de la réflexion quand on a dit qu'on veut rentrer dans ce jeu. On n'a pas mesuré tout ce que cela signifiait. Et on a pensé qu'il suffisait de recopier la Constitution de la Ve République française, il suffisait de faire un certain nombre d'institutions pour être au top niveau. On a oublié que c'est quand même c'est quelque chose qui doit être du ressort de notre propre peuple. Partout, les gens se sont battus pour imposer le respect de leur peuple, pour se doter d'institutions qui sont en accord avec eux-mêmes, et donc à partir desquelles ils peuvent dire... Voilà, ça, c'est la volonté de notre...
Si on vous comprend bien, qu'est-ce qu'il fallait faire alors? Parce que les États-Unis, dans tous les cas, on les cite parmi les pays démocratiques
absolument
du monde aujourd'hui.
Oui. Mais il y a eu une récupération de sens. C'est-à-dire que le mot démocratique a été récupéré par les pays occidentaux. Dans toute leur histoire, vous prenez tout ce qu'ils ont produit, ils se sont méfiés de ces termes. Tous les grands penseurs depuis près de 2001 jusqu'au milieu du 19e siècle, ils étaient contre ces termes-là. Mais progressivement, par marketing politique, ils se sont tous rangés sur le mot, l'étiquette démocratie. Mais vous verrez dans tous leurs écrits, dans toutes leurs actions, ils disent que le pouvoir du peuple n'est pas bon, il faut des représentants. Et les représentants, c'est qui? C'est eux. C'est-à-dire, c'est eux qui sont cultivés, c'est eux qui peuvent dire que si, c'est que... C'est ça qui a donné la démocratie représentative.
C'est l'exemple du Sénat aux États-Unis.
Le Sénat.
Nous avons aussi l'Assemblée nationale, puisque les citoyens sont représentés. La deuxième chambre, par les députés qui votent.
Le principe même de la deuxième chambre, c'est pour dire qu'il faut tempérer l'action des peuples, parce qu'on a commencé à permettre aux peuples de s'exprimer.
Nous allons finir dans un quart d'heure. Qu'est-ce qu'il fallait faire alors,
Ce qui se passe ici, c'est que quand vous voyez ce qui s'est passé à la conférence nationale et ce qu'on fait aujourd'hui, il y a une question à laquelle on n'a pas donné de solution.
C'est laquelle?
C'est qu'on est parti contre l'ajustement structurel. On a refait immédiatement de l'ajustement structurel. Parce que ces programmes de lutte contre la pauvreté, de réduction de la pauvreté, c'est des programmes d'ajustement structurel. Jusqu'à présent, c'est ce qu'on est en train de faire. C'est-à-dire que on a contesté quelque chose au début, on en a refait. Alors, est-ce à dire qu'on avait une alternative à ça? Les forces qui se sont retrouvées à la conférence nationale n'ont pas réfléchi à cette alternative-là. Et donc, ce qu'on a dénoncé est repassé. La seule différence, c'est l'aspect liberté, l'aspect possibilité.
Liberté d'association, etc.
Mais on a vu, à partir du moment où les difficultés économiques, la crise économique a continué, mais ces difficultés-là, ces libertés-là, ont tendance à être muselées, à être attaquées. On n'a pas tiré de leçons de qu'est-ce qui a fait l'échec des régimes antérieurs. Ils ont essayé quelque chose. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas essayé. Et ils ont mis des dispositifs en place.
Donc mais ça a été des points, vous êtes en train de
et le fait de n'avoir pas fait,
donc des points faibles de cette conférence nationale. Merci beaucoup.
Qui ont atténué les succès qu'on est en train de
donc il y a eu des acquis, il y a eu des points faibles.
Oui, il y a eu des insuffisances qui font qu'aujourd'hui, on est en train de buter justement sur ces difficultés-là. Pendant 30 ans de conférence, vous voyez bien qu'on classe le Niger dernier du point de vue de l'IDH.
Il fallait penser à tout ça. Merci beaucoup. Maintenant, votre mot par rapport à la situation sur la démocratie au Niger.
Bon, je peux dire que la situation sur la démocratie au Niger, c'est la même chose que la situation des autres pays. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'il suffisait de dire démocratie, et de faire des constitutions qu'on dit très avancées, pour qu'on se tire d'affaire. Non, on s'aperçoit qu'on a des textes qui sont magnifiques, mais la réalité est en déphasage avec ça. Pourquoi? Parce que ce n'est pas... La démocratie veut dire...
Pouvoir du peuple.
Oui, l'implication, la participation politique des populations est très faible. Le peuple n'est pas inséré dans le processus. De temps en temps, tous les 4, 5, les 5 ans, on lui demande de voter. Mais c'est un vote par achat de conscience, c'est un vote par utilisation des ressorts identitaires. C'est un vote qui n'est pas conscient le plus souvent. Mmh. Et donc, concrètement, ça donne quoi? Ça donne une démocratie au rabais, en fait.
Quels sont les obstacles qui persistent aujourd'hui?
Les obstacles qui persistent, c'est qu'un pays dépendant ne peut pas être démocratique. Pourquoi?
Il faut d'abord donc renforcer l'économie.
Il faut qu'on soit indépendant.
Indépendant.
C'est-à-dire qu'il faut qu'on construise notre souveraineté vis-à-vis de nos ressources, vis-à-vis de notre modèle même. Mm-hmm. Même le modèle lui-même doit être en adéquation avec les exigences de la population. Mm-hmm. Le fait de ne pas l'avoir fait que nous nous retrouvons en Afrique dans une situation où chaque fois le processus démocratique est pris de court. On tend à le museler à partir des élections qui deviennent de plus en plus non transparentes, à partir du fait que les systèmes politiques qu'on met en place tournent à vide parce qu'ils sont incapables de solliciter l'énergie populaire, là, l'énergie dont ils parlent, là, l'enthousiasme, tout ça. Ça s'est effrité. Aujourd'hui, beaucoup de gens, quand on vous dit démocratie, bon, c'est quelques personnes qu'on a vues qui se sont enrichies. Et puis, bon, tout le reste est sur les carreaux. C'est-à-dire qu'on n'a pas posé le problème.
La démocratie, c'est donc quelques personnes qui se sont enrichies. Voilà. Adam Ouidé, acteur politique de la majorité. Est-ce que vous avez cette conviction?
Monsieur Michel, j'ai constaté que la conférence nationale a accouché de beaucoup d'actes. Je crois que le grand frère en sait plus que moi, mais l'acte fondamental, l'acte principal que nous débattons ici, c'est la démocratie multipartiste. La conférence a accouché de la démocratie multipartiste au Niger. Et quand on dit démocratie multipartisme, c'est-à-dire que beaucoup de partis politiques peuvent se créer.
Mais ce
sans limite,
dit,
Il
a partagé ce point de vue, mais l'idée ici, c'est qu'il dit que ça ne profite pas au plus grand nombre, cette démocratie. Est-ce que...
Mais là, il faut une autre conférence. Peut-être là, il faut être une autre conférence pour voir quel système pouvait, n'est-ce pas, marcher. Mais maintenant, nous sommes assis sur la démocratie multipartiste. Et je crois que cette démocratie multipartiste-là, c'est ce qui a d'abord accouché d'autres multipartistes, c'est-à-dire les associations se sont multipliées, n'est-ce pas? Les syndicats se sont multipliés parce qu'à l'époque, c'était seulement l'USTN. Mais aujourd'hui, il y a combien de centrales syndicales? Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, il y a combien d'ONG? Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, les étudiants même ont beaucoup de structures, n'est-ce pas? Beaucoup de structures étaient créées. Donc, tout ça là, c'est une sorte de décrispation. Dans le temps, ce n'était pas ça. Mais on a décrispé et ça nous a valu aujourd'hui cette liberté de venir devant vos micros nous exprimer sur la vie de la nation. Les radios se sont multipliées, n'est-ce pas? Donc, on peut dire que la conférence a accouché de beaucoup de bonnes choses. Mais elle a, comme l'a dit aussi Maman, elle a accouché aussi de certaines mauvaises choses. Parce qu'il y a peut-être des choses qu'on voulait faire, mais par le déshydratat de certaines personnes, peut-être ça n'a pas été fait. Je crois qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'il faut se réjouir de ce que la démocratie, même si ça peut marcher clopin-clopin, elle est de mise, elle travaille. Nous travaillons sur cette base-là. Peut-être que beaucoup de réflexions, comme la réflexion de l'altermondialiste, peuvent nous nourrir devant. Et peut-être qu'on peut changer, on ne sait pas.
Merci.
Mais je dis que même en Amérique, mais il y a un parti des démocrates, n'est-ce pas? Et des républicains, non? Donc la démocratie y est là-bas, comme nous la faisons ici. Mais peut-être les systèmes sont différents. Voilà moi ce que je pense.
Merci. Nous allons donc terminer par les perspectives pour rendre plus forte cette démocratie au Niger. Monsieur Sabo Seydou, qu'est-ce qui manque aujourd'hui selon vous au Niger pour un bon enracinement de sa démocratie?
Moi je pense que ce qui manque le plus, c'est qu'il y ait des citoyens. C'est-à-dire il faut œuvrer beaucoup pour la formation des Nigériens à être des citoyens. Donc, conscients de leurs droits, de leurs devoirs, et prêts à se lever pour les défendre. C'est ça qui manque.
Que les citoyens se mettent debout, donc.
C'est-à-dire, c'est ça, quand je dis c'est ça qui manque, c'est en même temps ça, maintenant, qui devient de plus en plus important. Ne serait-ce qu'à travers ce qu'on voit lors des élections. Quand vous comparez les élections qui sont faites depuis quelques deux ou trois séries d'élections, là, et les élections précédentes, là, c'est-à-dire celle de 93, vous regardez la différence qu'il y avait, en ce sens que, avant, vous prenez certaines zones ou certaines régions, les gens votaient comme des militaires. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Surtout dans la zone urbaine. Dans les zones urbaines, vous constatez que les consignes des partis sont outrepassées par leurs électeurs. Donc c'est un début, je dirais, d'existence de citoyens. Bon, et puis maintenant, il y a beaucoup, disons, d'associations, que ce soit dans les villes ou en zone rurale, bon, qui disons, qui s'expriment. Moi, je pense que c'est ça le plus important.
Merci à vous, Moussoumi Malansita. De votre point de vue, quelles sont les pratiques à promouvoir pour arriver à faire enraciner justement cette démocratie au Niger?
Je crois que le tonton l'a évoqué, la question de la citoyenneté. Parce que...
Oui, en dehors de ça, est-ce qu'il y a...
Non, j'arrive. Tout est contenu dans la citoyenneté.
Bien sûr.
C'est-à-dire que l'esprit civique de chaque citoyen permet de renforcer la qualité de la démocratie. Parce que les citoyens, en fait, sont répartis dans divers secteurs sociaux, économiques de la vie. Et aujourd'hui, les institutions ne valent pas à travers les textes, mais par l'esprit citoyen. Vous êtes président de la Cour constitutionnelle, vous êtes un citoyen. Et ce n'est pas parce que c'est votre parti politique qui vous a nommé que vous ne respectez pas la lettre et l'esprit des textes de votre institution. Vous êtes président de la CENI. C'est l'esprit citoyen qui fera que vous resterez objectif, impartial et neutre. Donc c'est ça, là, c'est pour ça que je dis tout est contenu dans la citoyenneté. Donc il faut que les gens estiment que nous œuvrons tous pour l'intérêt général et que l'essentiel, que la compétition soit saine. Aujourd'hui, la question de la démocratie, qu'on le veuille ou pas, réside d'abord dans la qualité de l'organisation des élections. Parce que nous avons dit, ce n'est plus, on a accepté, on est tous d'accord que ce n'est plus parce qu'il est plus beau, il est plus fort, il est plus riche qui doit nous diriger. Et l'élection, c'est la liberté qu'on donne aux citoyens de choisir tout simplement leur représentant.
C'est le président de la République, de la Constitution.
jusqu'au niveau local. Et à partir de là, dans nos traditions, tu peux être de ma famille. Je serai mieux placé pour juger ta moralité. Et ce n'est pas parce que tu es mon parent que je dois voter pour toi. Par rapport à la collectivité, parce que je me sens complice et responsable de ce que tu feras en cas de déviance. C'est pour ça que je dis tout est contenu dans la citoyenneté.
Il faut donc des votes
responsables. Et à partir de là, la question de la citoyenneté, c'est pour ça que nous, au niveau de AN2C, de tout en ce que nous avons dit, c'est le dirigeant qui doit montrer l'exemple. Aujourd'hui, je vais vous donner un simple exemple. Lorsque le président de la République, lui-même, il ne s'impose pas certaines limites, il ne s'impose pas certains comportements, comment voudrait-il qu'il, dans son cabinet, que ses proches le respectent dans ce sens-là? Et que demain, il soit à l'aise pour leur gronder et leur dire que vous avez dévié. Et comment il peut être à l'aise pour mettre au pas un ministre? Et lorsque le ministre lui-même ne s'impose pas certaines limites et certains comportements, comment vous voulez que, dans son département ministériel, les agents, vous voulez qu'ils soient corrects? Et les députés lui-même, et nous l'avons dit, tout ce problème se pose parce que, jusqu'à présent, au Niger, dans le cadre de la représentation, nous n'arrivons pas à élire des députés d'abord qui sont conscients de ce qui est leur rôle et du poids qui pèse sur eux. Parce que si le député peut savoir que c'est lui d'abord qui doit interpeller un ministre et qu'il a l'obligation de répondre par rapport aux politiques publiques, et que lorsque le ministre refuse de répondre, les députés, même si c'est votre majorité, vous pouvez vous mettre ensemble pour défaire
le gouvernement, rien que pour que le ministre là, s'il ne peut pas démissionner, qu'il parte. Et l'essentiel, c'est de reconduire le même gouvernement. Merci. Et demain, les autres ministres, ils feront ça. Donc, je dis pour me
résumer, si on vous a
tout
compris.
Est dans la question de la citoyenneté. Il faut que les Nigériens acceptent partout où ils sont. Mm-hmm. Et à commencer par nos aînés. Mm-hmm. Parce que c'est eux qui doivent
montrer
être le modèle,
comme
la référence pour nous
dit.
Qui sommes les jeunes.
Merci.
Que ce soit dans le cadre de la gouvernance et surtout dans le cadre de la réconciliation. Parce que tout à l'heure, quand on parle de démocratie, on parle d'opposition. Et de
et
majorité.
Majorité
et je pense qu'on ne parle pas d'ennemis. Et l'opposition et la majorité doivent rester dans l'esprit. Et c'est pour ça que nous, nous avons toujours salué le CNDP et nous avons dit le Niger a innové, le Niger a fait un génie que le monde entier est en train d'imiter. Et il revient aux responsables politiques d'animer ce cadre-là
pour
que les générations
de la démocratie
s'inspirent
et l'intérêt
comment
du
leurs
peuple
aînés
nigérien.
Se comportent.
Merci beaucoup, Maman Sané Adamou. Nous allons terminer donc ce forum de Studio Kalangou. Comment relever tous ces défis? Ils ont parlé d'élections. Il faut rappeler que pour la première fois de l'histoire de notre pays, justement, nous avons pu obtenir la première alternance démocratique. Rapidement, en quelques mots.
Bon, pour la première fois, c'est un débat que vous soulevez là. Parce que nous, comme je vous l'ai dit, nous considérons que ce qui s'est passé n'est pas une véritable alternance. Parce que nous considérons qu'il y a eu un hold-up là. Alors, le problème de fond, ce n'est pas ça. Ou plutôt, c'est partir de ça pour aller vers deux choses. On est en démocratie, c'est des institutions. Bagbo a dit une chose avant-hier, il dit leur problème c'est quand on écrit quelque chose, il faut le respecter. On a des textes, il faut les faire vivre. Une constitution n'est pas valable seulement quand ça vous arrange. Il faut s'astreindre à ça. Et c'est ça qui doit être notre canevas. Si nos textes ne servent pas à ceux qui dirigent, c'est-à-dire qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, comment voulez-vous que la démocratie s'enracine?
Il faut donc respecter les textes.
Ce n'est pas seulement les textes. Deuxième chose, il y a le paradigme. Comment voulez-vous qu'un peuple qui est censé avoir le pouvoir, c'est ça, démocratie, continue de végéter dans la pauvreté, l'ignorance, etc. etc. C'est-à-dire qu'il y a une dimension sociale, économique, qui est fondamentale.
Il faut
qui
éduquer
empêche.
Le peuple
il faut pour éduquer
que
le peuple
puisse comprendre faut, même c'est quoi la démocratie,
il faut que nos institutions
comprennent la citoyenneté.
Soient crédibles, que soient reconnues par le peuple. Et il faut que les modèles économiques soient aussi choisis par le peuple. C'est-à-dire, or, on ne propose pas de modèle économique. On est en train de faire la même chose depuis 30 ans. Les problèmes d'ajustement structurel sont continus.
Vous l'avez expliqué.
Voilà. Et donc, ça empêche la démocratie. C'est-à-dire que la pauvreté est un obstacle à la réalisation de la démocratie.
Merci.
La dépendance est un obstacle. Et vous, les jeunes, si vous n'êtes pas sévères vis-à-vis de notre expérience, on ne peut pas s'en sortir. C'est-à-dire, il faut que vous soyez plus exigeants que nous l'avons été.
Bien sûr.
Donc, sinon,
merci. C'est un appel à la jeunesse. Voilà, merci à vous, Adam Ouidé, acteur politique.
Oui, mais moi, j'ai entendu,
pour terminer,
j'ai
votre
tout,
appel.
J'ai entendu tout à l'heure mon co-débatteur parler d'usurpation. Moi, je pense que les élections, ça, c'est derrière nous.
C'est votre
fini,
point
ça.
De vue, ils ont
ça,
leur point de vue, c'est derrière nous.
Justement, je voudrais répondre pour dire que les élections sont
il dit
derrière.
Ce que pense la coalition.
Oui, moi, je dis
il
ce
était
que pense la majorité,
d'ailleurs.
C'est que ces élections-là sont maintenant derrière nous.
Voilà, par rapport à la démocratie.
Maintenant, nous avons fait le bilan des 100 jours du président de la République, qui est unanimement apprécié. À travers le pays. Et je pense
on
que
revient
ça,
sur la démocratie,
c'est
ça notre sujet. C'est le thème du jour.
Il y a un déficit de formation politique. Il faut le reconnaître.
Voilà.
Donc, il faut une conscience collective au niveau, n'est-ce pas, de tous les partis politiques, au niveau même du Niger et même des associations, pour que la démocratie marche.
Merci beaucoup.
Mais la démocratie au Niger est sur le chemin. Avec des embûches,
et
ça arrive.
Il y a des choses à améliorer. Merci, on vous a bien compris, fidèles Merci. Auditeurs et téléspectateurs. Nous sommes au terme de ce forum de Studio Kalangou sur le thème 30 ans de démocratie au Niger. Quel bilan ? Vous avez écouté les propos de nos quatre invités. Ils ont eu à expliquer les points forts, c'est-à-dire les acquis, mais aussi des points faibles qui nécessitent d'être améliorés. Nous étions donc en compagnie de Moussoulmi Malansita. Il est le président de l'Association nigérienne pour le civisme et la croissance, AN2C. Nous avons Maman Sani Adamou, il est acteur politique de l'opposition, il est par ailleurs un alter mondialiste. Sabo Seydou, ancien rapporteur général de la Conférence nationale souveraine. Et enfin, Adamou Idé, il est acteur politique de la majorité au pouvoir. Merci à vous, chers invités, d'avoir répondu à nos questions. Au micro, c'était Michel Deji pour la présentation de ce forum. À la technique pour le son, nous avons Amina Hassan et à la réalisation vidéo, Mustapha Ayouba. Je vous souhaite de passer une excellente soirée. Au revoir.